Bon, ben voilà, aujourd'hui nous allons parler du romantisme, qui est en fait le premier des courants importants du 19e siècle, mais avant il me semble qu'il serait bon de réviser, de rappeler les courants principaux du 19e siècle. Bon, plantons, je vais dire, le décor à la fois politique, scientifique, industriel, économique du 19e siècle. Sachez que le 19e siècle est un siècle beaucoup plus complexe, extrêmement complexe par rapport, je vais dire, un 17e ou un 18e que l'on peut relativement, entre guillemets, typer d'un courant bien spécifique. Encore que, il est erroné de dire que le 17e siècle, c'est et ce n'est que le classicisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sachez qu'au 17e, le classicisme, c'est 20 ans, et pourtant 20 ans qui ont donné en fait leur nom à tout le siècle, parce que ce courant était le courant, entre guillemets, préféré de Louis XIV. Mais c'est oublié que le 17e, c'était aussi le baroque, c'était aussi la préciosité, c'était aussi le burlesque. Bon, eh bien, un petit peu à l'image du 17e, le 19e, c'est un siècle relativement complexe. D'abord, on commence par le point de vue politique, le point de vue industriel, scientifique, comme je vous l'ai dit, et puis on passera au domaine économique. Quand on aura planté le décor, eh bien, nous passerons au courant spécifique de ce siècle. Sachez qu'au niveau politique, nous sortons de la Révolution française. Donc les nobles ont perdu leurs privilèges, sont en général désargentés, et ces nobles vont en général chanter, entre guillemets, leur nostalgie, leur mélancolie vis-à-vis de leurs privilèges perdus. Ces nobles vont parfois quitter la France, et c'est ainsi qu'on peut dire que le romantisme français est né en dehors de nos frontières. Je vous dis, nous quittons la Révolution française, et donc l'instabilité politique est extrême. Il va y avoir une alternance de régimes politiques tantôt autoritaires, tantôt plus libéraux, avec des divisions intestines de ça et d'autres, des redressements, et puis à nouveau un écroulement. On va essayer de reconquérir le mouvement démocratique qui a été instauré en 1789 et puis qui a été remplacé par le pouvoir dictatorial et puis plus libéraliste et ainsi de suite. Bon, si je vous parle de politique, c'est en fait à des fins littéraires. Pourquoi est-ce que je vous parle de politique? Parce que de nombreux écrivains, citons par exemple Hugo, citons Lamartine, citons Vigny, ou même Zola ou Chateaubriand ont eu des prétentions politiques. Et de nombreux écrivains, vous disais-je, vont s'engager dans la lutte politique et sociale par leurs œuvres littéraires et leurs actions politiques, bien sûr. Par exemple, Hugo et Lamartine sont députés. Bon, ils remplissent des fonctions politiques. Vigny, bah, il va se présenter aux élections. Lui aussi a des prétentions politiques. Zola a milité pour une cause socialiste, et dans ses romans, on perçoit cet engagement politique socialiste. Je vous rappelle par exemple son intervention dans l'affaire Dreyfus, dont on vous a probablement parlé en histoire. Dreyfus donc a valu, on va dire, à Zola d'émigrer en Angleterre. Pourquoi? Parce qu'on lui a reproché son intervention peut-être un peu trop radicale. Et donc Zola va devoir partir parce que peut-être a-t-il été trop franc dans un célèbre article qu'il a intitulé « J'accuse ». Et là où il n'y va pas effectivement avec le dos de la cuillère et où il accuse les dirigeants d'antisémitisme, en fait. D'accord? Bon, donc, sous de fausses raisons, il reproche aux dirigeants, en fait, le racisme contre les Juifs. Chateaubriand est un libéral qui a, lui, prévu l'avènement de la démocratie. Lamartine préconise la conservation de la propriété privée. Et puis, vous avez d'autres littéraires qui sont tournés plus ou davantage vers des problèmes prolétaires. Ben, ici, je rappellerai encore Zola. Zola qui, dans par exemple Germinal, défend la cause des mineurs, la montée des syndicats à la fin du 19e siècle. Zola qui, par exemple, dans L'Assommoir, vous parle de l'alcoolisme chez les ouvriers. Et dans un extrait que nous lirons ensemble, un extrait du Bonheur des Dames, explique un petit peu l'avènement des grandes surfaces, des grandes surfaces commerciales qui écrasent, étouffent véritablement les petits commerces de quartier. Voilà. Au niveau scientifique, et vous qui êtes dans une option scientifique, ben vous reconnaîtrez certaines découvertes. Parlons par exemple de Pasteur qui inventa le vaccin, ou Pierre et Marie Curie qui inventèrent le radium, enfin qui découvrirent le radium et le polonium, Le Verrier qui a découvert la planète Neptune, ou bien encore Darwin et sa célèbre théorie de l'évolution. Bon, on ne peut pas le nier, le 19e siècle est un siècle matérialiste, scientifique, où va fleurir, où va s'épanouir une philosophie tout à fait en accord avec ce matérialisme et ce côté terre-à-terre que l'on reconnaît au 19e siècle, le positivisme, qui accorde une confiance relativement absolue dans la science et qui considère finalement que l'être humain est un élément naturel comme n'importe quel autre élément naturel, disons, qui est soumis aux lois de la nature. Donc le positivisme d'Auguste Comte, c'est une théorie philosophique athée, terre à terre, un peu à l'image de beaucoup de scientifiques de l'époque. Si je vous parle de science, c'est encore et toujours pour vous parler à des fins littéraires, et notamment pour vous parler de Zola, qui, dans ses œuvres, va imiter véritablement les méthodes d'un biologiste renommé de l'époque, un certain Claude Bernard. Alors Zola, il expérimentait véritablement ses observations dans ses œuvres, et effectivement on parlera du roman naturaliste et on insistera à un moment donné, Zola calque ses méthodes d'observation et d'expérimentation sur celles de Claude Bernard, qui est un biologiste important de l'époque. Voilà pour les prétentions scientifiques de Zola. Au niveau de l'industrie, ben nous sommes bien entendu à l'ère de la machine à vapeur qui va véritablement révolutionner les transports, à la fois ferroviaires mais aussi maritimes, aidant ainsi l'industrie à se développer, provoquant une concentration urbaine qui malheureusement sera favorable aux problèmes prolétaires, effectivement. Il se fait que la société campagnarde, malheureusement, va émigrer vers les villes parce qu'on leur a promis du travail dans les entreprises, dans les industries, en plein avènement, en pleine expansion dans les villes. Seulement, le problème, c'est que la main-d'œuvre, l'offre de la main-d'œuvre est supérieure, vais-je dire, oui, c'est ça, supérieure à la demande. Donc, quand ces malheureux arrivent dans les villes, eh bien, ils n'y trouvent aucune réponse à leurs questions, ils ne trouvent pas de travail. Et dès lors, ça va nourrir une espèce de cours des miracles, si vous voulez. Ces gens, ben, ils doivent manger, ils doivent vivre, eh bien, ils vont recourir à des méthodes, à des délits, comme par exemple le vol, mais également la mendicité, etc., le banditisme, pour se nourrir. À ce propos, les débuts, je vais dire, du roman policier datent de cette époque-là. Parce que les premières énigmes policières, etc., les premières intrigues policières vont paraître dans les journaux sous forme de petits feuilletons quotidiens, etc., sur ces journaux qui étaient à l'époque des feuilles volantes. Et voilà, donc ça c'est le début du roman policier. Bon. Les problèmes prolétaires s'expriment en prose, raison pour laquelle je vous parle de l'avènement de l'industrie et malheureusement de la concentration urbaine favorable aux problèmes prolétaires. Eh bien, les problèmes prolétaires vont s'exprimer dans la prose. Dans la prose de qui ? Bien sûr, de Zola. Et en poésie, un certain Théophile Gautier, qui était en fait au point de départ un romantiste, va affirmer que l'utile et le beau sont incompatibles. Autrement dit, Ce qu'il veut dire, c'est que en littérature, il faut faire joli, il faut que ce soit beau, agréable à entendre, à lire, mais il ne faut pas nécessairement faire passer de messages à travers la littérature. Ça, c'est un autre point de vue, celui de Théophile Gautier, qui s'oppose donc à des livres ou des romans tels que ceux de Zola, qui, eux, observaient la société en vue de faire paraître, de véhiculer des messages à son propos. D'accord ? Bon, alors, au niveau de l'argent, nous avons un mouvement industriel de plus en plus intensif et donc qui nécessite des opérations bancaires énormes. La bourgeoisie qui détient maintenant les capitaux va accélérer son ascension et encore une fois, on retrouve en littérature une influence, des thèmes de premier choix, de premier plan, qui vont trouver leur place en littérature. On va décrire l'insolence des privilèges bourgeois dans ces romans, ou au contraire la misère des victimes de ces bourgeois, à savoir le prolétariat, le peuple. Voilà. Maintenant, la place de la France dans le monde. Il faut savoir qu'il va y avoir énormément d'échanges intellectuels. Des influences germaniques vont nous gagner, mais nous allons influencer l'Allemagne. Je pense par exemple à la musique de Wagner, sur le symbolisme, ou encore le théâtre d'idées, avec une influence norvégienne, celle d'un certain Ibsen. La France qui publie des articles naturalistes en Russie, donc Zola va avoir une influence en Russie, voyez. Et puis nous sommes au 19e siècle, et vous le savez, le colonialisme règne beaucoup et donc les voyages vont favoriser le renouveau de l'exotisme avec une très grande influence littéraire. Voilà pour le cadre à la fois économique, industriel, scientifique et politique du 19e siècle. Maintenant, je vais rappeler rapidement les 3 ou 4 courants essentiels du 19e siècle. En passant d'abord par une période de transition, le pré-romantisme, que vont illustrer des auteurs comme Chateaubriand, Madame de Staël, et donc qui sont en phase de préparation du romantisme. Ces auteurs préparent le romantisme, nous sommes dans une phase de torpeur et d'instabilité politique, une phase de transition qu'on situe aux environs de 1790-1820 à peu près. Environ. Je rappelle également que ces dates, elles sont approximatives. Quand je dis 20, ça peut être 19 ou 21. On n'est pas à une année près. Ce sont, disons, des dates approximatives. Et parfois, un courant chevauche l'autre. On va le voir à propos du symbolisme et du réalisme, par exemple. Deuxième période, deuxième époque, deuxième courant, l'époque romantique, qui se situe à peu près entre 1820 et 1850. Alors, la nature du romantisme est difficile à définir compte tenu, je vais dire, de la diversité de ce courant. Il se fait qu'un certain lyrisme inspiré va se manifester avec aussi une exaltation inquiète du moi. Le poète, le romancier romantique aime se balader dans la nature, rentrer en symbiose avec cette nature, mais également avec Dieu, et exprimer, ses inquiétudes, communier avec la nature, l'humanité entière, ils essaieront de libérer la littérature de tout ce carcan de lois que le XVIIe siècle avait instauré. Effectivement, d'ailleurs, à ce propos, ce sont les romantiques du XIXe siècle qui ont nommé les classiques ainsi. Parce que eux se sont définis par rapport et par opposition aux gens du XVIIe siècle, aux classiques, entre guillemets, du XVIIe siècle. En fait, eux se sont dit que pour pouvoir exprimer librement leurs inquiétudes, leurs nostalgies, leurs sentiments, leurs mélancolies, pour pouvoir justement laisser libre cours à leur enthousiasme, eh bien, il ne devait plus y avoir nécessairement ces règles contraignantes qui avaient été instaurées et imposées par le XVIIe siècle, à savoir, par exemple, la règle des trois unités, qui exige que l'action se déroule en 24 heures, qu'elle ne s'évade pas d'un seul lieu, et l'action doit être une simple et vraisemblable. Et à ça, on ajoutait la règle de bienséance. Eh bien, les romantiques vont éliminer ces règles pour permettre une meilleure expression de leurs sentiments personnels. En littérature, je vous citerai des gens comme Chateaubriand, comme Hugo, comme Lamartine. En musique, la musique de Chopin ou de Berlioz. Bon, et sans presque de transition, je passe à l'époque du réalisme et du naturalisme, entre 1850 et 1880. Alors là, le réalisme, lui, va naître d'une révolte contre le romantisme. Vous savez, nous sommes au 19e siècle. Le prolétariat du 19e siècle a beaucoup de peine à trouver de l'emploi, à manger à sa faim. Alors vous savez, ces inquiétudes, ces nostalgies, cette mélancolie de nobles qui ont perdu leurs privilèges et qui les chantent dans leurs œuvres, ça ne les intéresse pas vraiment. Ça ne les intéresse plus vraiment. Eux, ce qu'ils veulent, c'est voir sur papier, leur réalité. Et effectivement, ils se réclament du réel, de la nature même de leur vécu, et ils refoulent, ils renient ce goût pour l'imagination, le mystère, le fantastique qui, soyons honnêtes, déformait la réalité du 19e siècle. Et donc, la réaction réaliste, d'ailleurs en relation avec ce positivisme d'Auguste Comte dont je vous ai déjà parlé, va en fait professer le respect des faits et rien que des faits. L'étude véritablement de l'homme, d'après son comportement et son milieu. Donc quelque chose de très réel, de très naturel, de très réaliste. Et cela à la lumière des théories sociales et physiologiques. Nous sommes dans un siècle où l'économie prend son essor, où le prolétariat a du mal de vivre, où la mécanisation fait de grands pas en avant. Nous sommes dans un siècle très terre à terre et ce siècle très terre à terre va exprimer ses difficultés, ses sujets de prédilection à travers la littérature. Bien sûr, Zola, qui va même intensifier ce courant réaliste jusqu'à être le père d'un autre courant plus poussé à l'extrême, je vais dire le naturalisme, mais on y reviendra. Je citerai des auteurs comme Balzac. Attention, Balzac, lui, son domaine de prédilection, c'est plutôt le roman. Tandis que, par exemple, le comte de Lille, Sully Prudhomme, leur domaine de prédilection, c'est la poésie. Et je vous rappelle que la poésie réaliste, elle s'appelle la poésie parnassienne. D'accord ? Donc, on ne parle pas de poésie en tant que telle réaliste, on appelle la poésie parnassienne. Bon, donc, Balzac, Flaubert, Stendhal, Zola, encore que Zola, c'est plutôt le naturalisme, en sculpture et en peinture. Tiens, en peinture, on a Courbet. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais on a Courbet. Mais vous savez, et ainsi vont les choses, on vit des choses parfois difficiles à supporter, et puis on les voit encore inscrites dans ses romans et dans ses poésies. Et donc peut-être y a-t-il à un moment donné saturation, et a-t-on envie, par manque d'idéalisme, du courant réaliste, de s'évader de ces difficultés. On a envie de rêver, on a envie de perspectives plus illimitées, et donc le symbolisme va naître, je vais dire, par ras-le-bol du courant précédent. Et le symbolisme, il se qualifie par quoi ? Eh bien, notamment des métaphores, des symboles, des allusions voilées, une impression plus qu'une description. Vous savez, la poésie parnassienne, quand elle a comme sujet un albatros, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va décrire un albatros de A à Z. Ses plumes, son plumage, son bec, sa tête, son comportement, son attitude. Le poète symboliste tel que, par exemple, Baudelaire, quand il prend comme sujet un albatros, il s'en sert pour décrire la condition du poète ou la condition de l'écrivain. Là, peut-être connaissez-vous cette poésie, mais à ce propos, nous la lirons à la fin du cours. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, j'arrête pour l'instant et je terminerai en disant que les réalisateurs les plus fondamentaux, les plus représentatifs du symbolisme, c'est Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé et Verlaine. En sculpture, vous connaissez certainement tous Rodin. En musique, Debussy, Evo et Fauré, par exemple. Voilà. Eh bien, pour aujourd'hui, on s'arrête là et on reprendra demain.